Alors, si vous voulez bien tourner dans la troisième épître de Jean, ça c'est l'avant-dernier livre de la Bible, c'est-à-dire que le dernier c'est Apocalypse, après ça il y a Jude, puis 3 Jean et l'autre livre. Et on va lire les versets 1, 2, 3 et 4, il y a juste un chapitre. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Souhait pour l'année ». Et on va le faire en deux parties parce que ce matin, on prenait le repas du Seigneur, même qu'il va falloir que je me dépêche un peu. Mais la semaine prochaine, on continuera la deuxième partie. Alors, 3 Jean, versets 1 à 4. « L'ancien, qui est l'apôtre Jean, Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et les enfants ici, c'est les enfants dans le Seigneur. Vous savez, c'est la tradition, on va appeler ça de même, au début de chaque année, de se souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui va suivre. Hein? J'ouvre une petite parenthèse ici. Je suis sur Facebook, face de livre qu'on appelle en français, et ça me fait rire de voir tout ce qui est dit là. En tout cas, s'il y avait une clochette après mon téléphone, je pense que ça aurait sonné toute la journée sur le nombre de souhaits, de vœux. Puis des fois, la même personne va envoyer 10 fois « bonne année » de différentes façons parce qu'elle a vu quelque chose de nouveau sur Facebook. Puis c'est beau. Puis il n'y a rien de mal. C'est un bon outil pour l'évangélisation Facebook. Si on sait s'en servir, là, c'est pas juste pour rejoindre des amis. Mais il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont dits. Et même des choses qui sont des textes qui sont vraiment pas des textes qui viennent de la Bible ou qui sont pas chrétiens. C'est des belles paroles. Il faut faire attention. Généralement, il est question de bons souhaits en ce qui concerne le travail, la santé, le succès dans les affaires. Et comme disaient nos ancêtres, le paradis à la fin de nos jours. Je ne sais pas si ça se souhaite, ça. Mais oui, on veut que tout le monde aille au ciel, mais on sait que la seule façon d'y arriver, c'est par la foi. Pas la petite foi de dire « Ah oh, oui, je sais que Jésus existe ou que Dieu existe. » Mais la foi jusqu'à aller, à marcher avec lui, à être son témoin. Mais comme disciple de Jésus, même si je ne suis pas insensible au fait que je veux réussir dans mon travail, que je veux être en bonne santé, que je veux du succès dans mes affaires personnelles, eh bien, je me dois de fixer mon attention. Si vous voulez bien dire, on va dire « focuser sur la réussite de ma vie chrétienne ». Et c'est ce que souligne l'apôtre Jean en écrivant à Gaïus. Le témoignage de Gaïus, comme Jean le dit, c'est un homme qui avait un beau témoignage dans l'Église. Hein? Un homme qui marchait selon la vérité. Un vrai chrétien. Et dans le court texte qu'on vient de lire, Jean amène ici 4 points qui souligne la réussite de la vie chrétienne. Et ces points-là sont, premièrement, la prospérité intérieure. Et on va voir ce que c'est. Ensuite, deuxièmement, une âme prospère. Troisièmement, une bonne santé physique. Quatrièmement, une prospérité à tous égards. Ce sont les quatre points qu'on va survoler dans le but de souligner la réussite de la vie chrétienne. Je veux que ma vie chrétienne soit une réussite. Et c'est le souhait que j'ai pour vous tous et je souhaite que vous souhaitiez la même chose. Donc, on verra les deux premiers points ce matin, la prospérité intérieure et une âme prospère. Et les deux autres, on va les voir la semaine prochaine. Ça va être un petit peu plus court, mais j'ai quand même confiance qu'on a beaucoup à retirer. Une bonne santé physique puis une prospérité à tous égards. Avant d'aller plus loin, on va juste demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, ce matin, ce début d'année, Seigneur Dieu, en ce 6 janvier, c'est toi qui as bâti ton Église. Et Seigneur, on veut être ceux et celles ici qui témoignent de ta vérité, qui témoignent de toi dans cette ville, dans les environs, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, on a un enseignement vraiment qui s'applique à nos vies, qui veut nous enseigner comment avoir une vie prospère en toi. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs. Éloigne toutes les distractions, les tentations, peu importe, Seigneur. Et apporte-nous, Seigneur, ce que tu veux nous dire dans ce court texte. Par Jésus, on te prie. Amen. Donc, le premier point, je vous ai dit, c'était la prospérité intérieure. Lorsque Jean va faire mention ici de la prospérité de l'âme de Gaius, il fait l'éloge d'une santé intérieure qu'on ne peut pas nier. La Bible elle-même nous encourage et elle nous donne les moyens d'expérimenter la prospérité de notre âme. Et cela même dans un contexte qui peut être hostile. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Ça peut même parfois être douloureux. Combien de familles ont été divisées à cause de la parole? Combien de gens se font massacrer dans le monde entier à cause de l'Évangile? Et ensuite, c'est difficile à gérer. On vit dans un monde où c'est rempli de toutes sortes de choses, de luxure, de tentation, peu importe les noms que vous voulez donner. Mais ce n'est pas nécessairement facile. Ce que Jésus veut nous, pour nous les chrétiens, c'est qu'on connaisse une vie épanouie. Jésus ne veut pas qu'on ait une vie plate. Jésus ne veut pas qu'on ait une vie qui ressemble à une vie dans un salon mortuaire. Jésus veut qu'on ait une vie qui est harmonieuse. Une vie qui est authentique par la présence de la paix de Dieu en nous. Jean 14, 27. Si vous ne pouvez pas y tourner, prenez une note. Écrivez Jean 14, 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ensuite, Paul va nous dire dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et, qu'est-ce qui va arriver? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Ça veut dire que le monde ne comprendra pas pourquoi vous êtes en paix. Va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix et la sérénité que le monde a à offrir dépend seulement des circonstances extérieures de la vie. S'il fait beau, on est joyeux. S'il mouille, c'est plate. Si on reçoit un cadeau, on est content. Si on ne le reçoit pas, on boude. Les circonstances extérieures affectent notre quotidien. Donc, elles sont incertaines et aussi de courte durée. Hein? Vous vous achetez quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, puis 2 heures après, c'est fini. Y a-t-il d'autres choses que je veux? Les circonstances qui viennent de Dieu, par contre, sont l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui vit dans le cœur de chaque croyant. Et j'ouvre une petite parenthèse encore ici pour vous dire, surtout parce qu'il y a des gens qui nous viennent du milieu pentecôtiste, le Saint-Esprit, là, il arrive en même temps que la journée où on est sauvé. Il n'arrive pas après. Il n'arrive pas quand je commence à parler en langue. Il n'arrive pas quand je commence à faire ci, à faire ça. Non. Le Saint-Esprit arrive en nous aussitôt qu'on a reçu le Seigneur Jésus. Donc, les circonstances qui viennent de Dieu sont l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur qui est ouvert. Et il y a des hommes de foi qui en ont fait l'expérience. Et on pense à Shadrach, Meshach et Abednego, et ensuite Daniel, dans Daniel 3. Ces 3 jeunes Hébreux-là avaient décidé, en compagnie de Daniel, de ne pas participer au repas au cours desquels la viande servie provenait d'animaux qui avaient été sacrifiés à des idoles, suivant le rite païen. Ensuite de ça, ils ont choisi de se préserver des orgies et des débordements de tout genre qui caractérisaient évidemment la vie du roi puis de ses proches. Et Daniel et ses 3 amis ont dit non, nous on ne veut pas prendre part à cela. Pourquoi? Parce qu'on veut rester droit devant notre grand Dieu. Mais la paix de Dieu, face à une mort certaine, parce que s'il désobéissait au roi, c'était la mort. Cette paix-là leur a été accordée en abondance. Parce que ces jeunes-là, ils étaient déterminés à ne pas faire de compromis avec le péché. Vous savez, des fois, là, il faut faire attention. Faire des compromis avec le péché, c'est dangereux. Faire des compromis avec toute autre forme de souillure, c'est la même chose. Étienne, dans Acte 7, a été rempli de la paix du Seigneur, était rempli d'assurance lorsqu'il a témoigné devant le Sanhédrin et devant ces gens-là qui voulaient le tuer, parce qu'il était en communion avec son Seigneur. Je veux juste, j'en ouvre bien les parenthèses ce matin, mais je veux juste vous dire, ces gens-là, c'était des gens comme nous autres, là. C'est pas des superstars, c'est pas des super-héros. C'est du monde comme vous et moi. Mais ils étaient en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit a été capable de manifester son œuvre dans Étienne. Regardez dans Acte 6 pour vous dire... Quel genre d'homme était Étienne? Acte 6, verset 3, qui dit ceci, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse,
et que nous chargerons de cet emploi. T'as pas n'importe qui, Étienne. Actes 6, 3. Étienne était un homme avec une grande sagesse qui avait un bon témoignage et qui était digne de servir le Seigneur. Et comme dernier exemple, j'ai Paul et Silas dans Actes 16, verset 25. Paul et Silas, ils n'ont pas eu peur d'être exécutés à cause de leur emprisonnement parce qu'ils ont abandonné totalement leur vie et leur destinée entre les mains de leur maître Jésus. Regardez ce qu'on lit dans Actes 20, 24. Hein? C'est Paul qui parle, qui dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec le Seigneur avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est celui d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul dit, je m'en fous de ma vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, Paul dit encore, « Car l'amour du Christ me presse. » Il y a quelque chose qui le presse, et c'est l'amour de Christ. « Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » On s'est rappelé ce matin la mort, mais j'ai oublié de mentionner la résurrection. Ce qui est un fait important, parce que si Christ ressuscite pas, on n'a plus d'espérance. Christ est ressuscité. Et ce même Seigneur-là va revenir. Il va venir chercher son Église. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont fatigués, chargés? La vie a peut-être plus de sens. Jésus dit, venez à moi, je vais vous donner du repos. Venez à moi. Mon joug est doux et humble de cœur. Par ces paroles-là qui viennent du Seigneur Jésus, on découvre deux dimensions du repos divin. Le repos qui vient de Dieu et qui a trait à la prospérité intérieure. Premièrement, c'est avoir une attitude de foi et une attitude d'abandon dans la présence du Seigneur. Je ne peux pas être un chrétien qui n'a pas de foi. Puis si je pense que je suis capable de faire beaucoup de choses, le Seigneur il dit, « Arrange-toi. » Non, il faut que j'aie cette attitude de foi et une attitude d'abandon dans la présence du Seigneur. Et deuxièmement, celui du choix volontaire de suivre Jésus, de suivre ses instructions, de suivre ses conseils, de suivre sa parole. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils croient, mais en réalité, leur vie ne change pas. Lorsqu'on parle des instructions de Jésus, de ses conseils, de sa parole, on ne veut rien savoir. Mais on croit. J'ai fait une petite prière, puis... mais ma vie n'a pas changé. Posez-vous des questions. Et c'est ça ce qui nous donne de la prospérité intérieure, la paix en Dieu. Être abandonné totalement à lui. Puis ça, ça nous donne la prospérité intérieure. Le deuxième point, c'est une âme prospère. Et vous savez, notre âme est composée de trois grandes sphères, soit l'intelligence et la raison, les sentiments et les émotions, puis la volonté. Une âme qui est prospère est caractérisée par l'action efficace du Saint-Esprit dans tous ces trois domaines. Autrement dit, dans le cœur du chrétien, on n'attriste pas le Saint-Esprit, mais on l'écoute. On est soumis à l'Esprit-Saint. Et les trois domaines que j'ai parlé, soit le premier qui était l'intelligence et la raison, je peux dire là-dessus, c'est que l'appréciation de Dieu est souvent différente de celle des hommes, évidemment, et elle se situe à un niveau supérieur. Donc, on lit dans 1 Samuel 16, verset 7, hein, et l'Éternel dit à Samuel, qui était un prophète, « Ne prends point garde à son apparence. » Samuel était allé chercher, autrement dit, chercher pour un homme qui deviendrait, autrement dit, roi. Et le roi d'Israël, et cet homme-là, évidemment, on sait que c'est David, et David était le plus jeune, le plus petit dans la famille, le berger, il était berger. Donc, le Seigneur dit à Samuel, regarde pas son apparence, regarde pas à la hauteur de sa taille, parce que je l'ai rejeté. Il y avait quelqu'un qui était venu le voir, puis c'était pas lui. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans Ésaïe aussi, on peut lire dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc Dieu pense pas, il apprécie pas de la même façon que l'homme. Être intelligent et avoir un bon raisonnement selon Dieu, ça veut pas dire avoir un quotient intellectuel plus haut que quelqu'un d'autre. Non. Pour le Seigneur, c'est avoir des facultés qui sont remplies d'amour et de vérité. C'est ça pour le Seigneur. Et en réponse à cela, le Seigneur nous donne la lumière et les capacités nécessaires pour bien comprendre les choses de Dieu. Regardez dans Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » L'Évangile, la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, c'est pas juste, excusez-moi, pour des personnes qui ont un quotient intellectuel plus élevé que d'autres. Je m'excuse, c'est pas ça. Le psaume 119, verset 104 dit ceci, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. La parole de Dieu, c'est pour nous. Même si on n'a pas d'éducation, même si peut-être nos capacités sont moindres, la parole est pour tous ceux qui veulent, qui aiment le Seigneur. Quand on parle d'intelligence, on parle d'une intelligence qui est spirituelle et qui saisit les réalités qui viennent du ciel. Le deuxième point, c'est les sentiments et les émotions. Hein, ce qui fait partie du cœur. L'homme est équipé naturellement de perception, d'affection puis de sentiment. On a tous ça. Et bien souvent, nos perceptions, notre perception des choses, c'est-à-dire nos affections, nos sentiments, nous trompent. Et par le fait même, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne des désirs et des pensées de Jésus. Parce qu'on a une mauvaise perception des choses. Mais une âme prospère a la particularité de se laisser enseigner par la parole et par le Saint-Esprit. Dans mon langage, on dit ça, c'est une personne enseignable. Une âme prospère laisse se développer en elle les sentiments, les pensées et les émotions de Dieu lui-même. Paul dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne le sauras pas. Tu as beau réciter le verset 50 000 fois. C'est quoi les sentiments de Jésus? Un enfant de Dieu n'est pas appelé à créer ses éléments, mais il est appelé à permettre au Seigneur de les susciter en lui et de les faire croître dans son amour. Paul dit dans Galates 5, 22, et vous connaissez tous le verset, je crois, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne peux pas créer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne peux pas. Mais il faut que je permette au Seigneur de susciter et de faire grandir en moi le fruit de l'Esprit, tel que mentionné dans Galates 5, 22. Si je laisse le Seigneur faire, ça va se produire en moi. Si j'essaye par mes propres forces, échec total. Et troisièmement, en ce qui a trait à l'âme, c'est la volonté. Chaque être humain a cette possibilité-là et a la liberté d'avoir dans son cœur des choix personnels. Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas régénéré, vit en suivant les penchants et les désirs de sa volonté. On est comme ça. Et malheureusement, cette manière de vivre-là peut aussi concerner des croyants. Des croyants charnels qui vivent selon le monde. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse renoncer par amour, mais non pas par contrainte, c'est-à-dire pas par force. Renoncer à notre propre volonté et qu'on puisse se soumettre à sa volonté. Si je prends par exemple ce qui motivait les pharisiens dans le temps de Jésus, c'était le devoir, le respect des règles et des principes divins. Et ces motivations-là étaient les moteurs, pour ainsi dire, de leur marche avec Dieu. C'est ça qui les motivait. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sang. Non. Il fallait que la job soit faite. Cependant, si la vie chrétienne est uniquement, c'est-à-dire basée et construite sur ce genre de fondation-là, là, celle des pharisiens, elle risque d'être pénible, austère, plate, sans rayonnement, sans éclat, sans joie. Pas ça que le Seigneur veut. Dieu ne veut pas des rigidités. Non. Notre motivation principale pour accepter le dépouillement de notre volonté, c'est d'épouser celle de Jésus, qui est l'amour. Si on est en difficulté sur ce côté-là, le côté de l'amour, on est invité à se laisser remplir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu répond efficacement à tous les besoins de notre cœur humain. Cet amour-là communique la force nécessaire pour suivre le Seigneur Jésus sur le chemin étroit et resserré. En Romains 5:5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans Jean, 1 Jean 4, versets 16 et 17, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Jésus, c'est l'exemple parfait de la soumission volontaire et joyeuse. Et cette semaine, si vous avez le temps de lire ces trois passages-là, Matthieu 26, verset 39, Jean 4, verset 34, et Jean 5, verset 30, juste pour en nommer un, Matthieu 26, 39, on parle de la soumission du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 26, 39, on lit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus a été soumis à son Père. Parfois, devant les difficultés de la vie, qui ressemblent souvent à des défis à relever, on peut être bloqué. Et il me semble que c'est parfois impossible à surmonter cela. Hein? Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner à cette personne-là. Je ne peux pas aimer. Je ne peux pas résister à certaines tentations. Je ne peux pas repousser des pensées négatives. Et quand ça arrive, bien, on est dans des mauvaises positions. Et le Seigneur connaît parfaitement nos limites. Ça me console, ça. Le Seigneur connaît parfaitement nos limites, nos faiblesses et les impossibilités de ses enfants. Romains 7, 14 à 25. Prenez le temps de lire ce passage-là et de méditer cette semaine. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je ne peux rien par moi-même. C'est au niveau de notre volonté que Dieu nous interpelle. Notre volonté doit être mobilisée pour prendre des positions spirituelles qui sont conformes à sa parole. Il faut être déterminé à faire confiance au Père Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, et qui nous donne, lui, c'est lui qui nous donne la force Il nous donne les facultés nécessaires pour y arriver. Réfléchissons un petit peu, là. Jésus connaît nos faiblesses. Et il a accepté dans son amour notre incapacité totale à manifester la moindre volonté. Il l'a accepté. Donc, Jésus prévoit dans ces circonstances extrêmement difficiles l'action de l'Esprit-Saint pour susciter et pour créer en nous la volonté dans notre cœur. Dans Philippiens 2, verset 12, Paul dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et je veux conclure en disant ceci. Frères et sœurs, nous devons fixer notre attention. J'ai dit « focuser » tantôt notre attention sur la réussite de notre vie chrétienne. Pour la semaine qui vient, méditons simplement sur ces deux points. Et les passages bibliques qui les accompagnent. Hein, le premier point qu'on a vu, la prospérité intérieure, ce que Jésus veut pour nous les chrétiens, c'est que nous puissions connaître une vie qui est épanouie, en harmonie, une harmonie intérieure par la présence de la paix de Dieu en nous. On a vu tout à l'heure Jean 14, 27 et Philippiens 4, versets 6 et 7. Et Jésus, Dieu veut qu'on ait une âme prospère. Une âme prospère est caractérisée par l'action efficace du Saint-Esprit dans les trois domaines qu'on a vus, l'intelligence et la raison, les sentiments et les émotions, et enfin, la volonté. La semaine prochaine, on va continuer avec les deux autres points. Mais entre-temps, réfléchissons. Prenons comme engagement en 2019 là, de prendre un temps, soit pour aller sur notre site ou ben non, pour prendre des notes à chaque fois qu'il y a un message que quelqu'un vient prêcher, pour que dans la semaine, on puisse y revenir et s'approcher ainsi du Seigneur. Merci, Père éternel, pour cette parole divine, cette vérité qui est en nous par la présence de l'Esprit-Saint. Que tu puisses, Seigneur, continuer à faire en nous, Seigneur Dieu, à produire en nous le vouloir, le faire. Termine l'œuvre en nous, de nous permettre d'arriver à la stature parfaite de Christ. Sois avec nous cette semaine. Bénis ton Église, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être une Église qui brille dans les ténèbres. Non pas parce qu'on est plus beau ou meilleur que les autres, mais parce qu'on t'aime, parce qu'on veut chercher encore de plus en plus à mieux te connaître. Sois béni, Père. En Jésus, on prie. Amen.
Il est dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Que tous amènent à